France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Dimanche dernier, certains habitants de Bretagne et de Loire-Atlantique sont descendus dans la rue pour réclamer d'avoir le droit d'acheter des logements chez eux. C'était pas la première fois. La pression immobilière est devenue, disent-ils, intenable. La faute à la prolifération des locations touristiques sur les sites de location à courte durée. La faute aussi à la ruée vers l'ouest, les résidences secondaires à foison, achetées par des citadins plus aisés. Le phénomène avait commencé déjà avant les confinements. À l'époque, on mettait cette ruée sur le dos du TGV. Aujourd'hui, c'est donc le Covid qui parle. La réalité et la conséquence, c'est que les prix forcément grimpent et que les locaux n'arrivent plus à se loger. Dans certaines villes, la résistance s'organise, Guérande, Saint-Malo, les Sables-d'Olonne, avec parfois des quotas sur les résidences autorisées, avec parfois des taxes foncières à plus 60%. Alors, quelle est la réalité de cette ruée vers l'ouest? Est-ce que des restrictions trop importantes ne vont pas finir par faire fuir des touristes dans des zones qui ne vivent que de ça? Faut-il réellement mettre dans le même panier les résidences secondaires, qui ne sont pas toujours un cliché de parisiens riches qui déboulent à la mer? Les résidences secondaires donc, et les locations à courte durée. Comment préserver l'habitat local et bon marché? C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Roxane, c'est vous la première. Bienvenue Roxane et bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi, je vous appelle parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Les Enfants de Tempête et qui est située à L'Île-Dieu, donc petite île sur le littoral vendéen. Je vous appelle pour vous faire part un petit peu de la situation chez nous, la réalité de cette problématique de logement qui est très très prégnante, puisque on a de plus en plus de témoignages d'habitants qui ne trouvent plus à acheter pour raison d'augmentation de prix et de flambée des prix, que ce soit sur l'achat, sur la location, des commerçants qui ne trouvent plus comment loger leur saisonnier l'été, des habitants qui quittent l'île parce que ça fait trop longtemps qu'ils cherchent et qu'ils n'ont plus de solution. On assiste aussi beaucoup à des habitants qui sont obligés de se loger au camping l'été parce que leur maison est récupérée pour être mise en location estivale. Et donc face à cette situation, nous on est très inquiets parce qu'elle met vraiment en péril la vie à l'année sur les îles. Et cette vie à l'année, elle fait partie de l'attractivité quand même de toutes ces îles que les personnes viennent
fréquenter. Et Roxane, deux choses. Est-ce que d'abord, vous le situez à quel moment le début de ce phénomène-là? Parce qu'évidemment que c'est pas un phénomène confinement, ça doit dater de bien avant. Donc à quel moment ça commence à s'inverser et vous êtes submergé par les locations de vacances?
En fait, c'est un phénomène qui s'amplifie d'année en année de manière assez naturelle, puisqu'en plus, nous, on est sur des îles, donc on est sur des territoires finis de manière géographique et naturelle. Ouais. Donc forcément, moins il peut y avoir de construction et de terrain, plus les prix augmentent. Mais après, on sent vraiment qu'il y a eu une très très forte augmentation de cette problématique avec la crise sanitaire. On a du mal à le mesurer parce que les chiffres de l'INSEE ont toujours un petit décalage. On sait qu'avant, en 2019, avant la crise, on était à environ 60% de résidences secondaires sur le territoire. Mais là, on constate dans les prix qui se pratiquent en agence avec des maisons tout à fait normales qui sont en dessous de 450 000, 500 000 euros, des terrains qui existent quasiment plus sur le marché. On voit que on n'a plus d'offres.
Merci beaucoup Roxane, et je vous interromps aussi parce qu'on vous entend un peu loin en fait, et c'est un peu compliqué, mais on a bien compris ce que vous nous disiez depuis votre Île-Dieu. Pour discuter ensemble autour de ces sujets jusqu'à 20h, Pierre Madec est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste spécialiste du logement. Loïc Chesnais-Girard, bonsoir. Vous êtes président de la région Bretagne. Je vais me tourner vers vous d'abord, monsieur Chesnais-Girard, si vous le voulez bien, parce que j'imagine que vous vous reconnaissez dans ce que vient de nous décrire Roxane sur son Île-Dieu.
Oui, ce que décrit Roxane, effectivement, nous le connaissons sur l'ensemble des îles de Bretagne, on le connaît sur un certain nombre d'îles de communes littorales. c'est un sentiment un sentiment et une réalité d'ailleurs, d'incapacité à pouvoir acquérir ou louer des biens pour pouvoir y vivre toute l'année. Et ce constat, il ne date pas du Covid, il date déjà de quelques années, mais en ce moment, nous avons un sentiment qui est exacerbé par une augmentation des prix massive qui a explosé depuis quelque temps.
Augmentation, ça veut dire quoi? Vous le situez dans quelle fourchette? Est-ce qu'on est dans une explosion qui dit 20, 30, 40%? Comment ça marche?
Nous avons effectivement des hausses de prix de 15, 20, 30, 35% qui nous sont signalées dans certaines communes, avec des territoires qui se retrouvent avec des acheteurs là où il n'y en avait pas depuis longtemps. Et ce n'est pas d'ailleurs que dans les communes littorales. Vous avez dans les communes du ce qu'on appelle le centre-Bretagne, des biens qui se vendent pour des personnes qui souhaitent acheter, soit pour venir y vivre, et ça c'est une bonne nouvelle, soit pour vivre à moitié en Bretagne, à moitié à Paris. Ça peut être intéressant, d'ailleurs ce sont des modèles qui sont regardés, ça permet par moment de redynamiser certains espaces, ça peut générer aussi des difficultés dans certains cas, et puis dans d'autres cas, ce sont des résidences dites secondaires ou mises à la location courte durée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et là, aucune commune ne peut vivre avec 30, 40, 50, 60% de volets fermés. C'est pas possible.
Pierre Madec, comment vous le voyez évoluer? Parce que là aussi, Roxane nous dit qu'effectivement c'est un phénomène Covid. Moi, j'ai un peu le sentiment que, effectivement, elle a sûrement raison, le Covid a accéléré ce phénomène-là qui date d'avant. Donc le changement, c'est quoi? Je parlais du TGV tout à l'heure en lancement, par exemple.
Alors oui, il y a de gros investissements publics comme le TGV. On l'a vu notamment à Bordeaux, où on a des prix immobiliers qui ont fortement augmenté. En réalité, ce qu'on pointe là, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le problème des résidences secondaires. On a beaucoup de résidences secondaires en France. Il y a plus de 3 millions de résidences secondaires. Et ces résidences secondaires-là, elles sont concentrées dans des zones qui sont déjà tendues sur les marchés du logement, c'est-à-dire le littoral. Il y a à peu près 40% des résidences secondaires qui sont sur le littoral. Par exemple, dans des zones de montagne, des zones par nature touristiques. Mais ça, c'est ancien. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de logements rapporté au nombre de Français, en réalité, on est à des niveaux proches de ce qu'on observe en Allemagne. On pourrait dire, on entend souvent les discours politiques, ils disent qu'il faut faire un choc d'offres, il y a besoin d'offres de logements, construire beaucoup. Mais en réalité, on ne manque pas tant que ça de logements en France. Le problème, c'est qu'en effet, on a beaucoup de résidences secondaires, on a beaucoup de logements vacants. Et dans les zones les plus tendues, on a un marché locatif privé, c'est-à-dire celui qui s'adresse en priorité aux jeunes, aux classes moyennes, aux mobiles, qui a tendance à se réduire. Parce qu'on a des prix immobiliers qui augmentent plus vite que les loyers, on a un taux de rendement locatif qui baisse, et donc on a un certain nombre de logements qui avant étaient mis en location normalement, qui basculent soit sur du meublé touristique, soit sur de l'accession à la propriété, avec des gens qui achètent parce qu'ils ont plus intérêt à acheter, à occuper que à louer. Et donc on a toutes ces problématiques-là qui sont mises en lumière par le Covid. Alors pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'en effet ça a accéléré un peu la dynamique et la trajectoire qu'on observait avant. Faut voir que les ménages, dans un contexte de conditions d'emprunt très favorables, ont accumulé beaucoup d'épargne au cours des deux dernières années. On dit que c'est aux alentours de 150 milliards d'euros, et que donc il est possible que cette épargne, on a consommé, reconsommé ce qu'on avait à consommer, on va en injecter un peu dans le logement, dans des résidences secondaires ou dans des résidences principales plus grandes. Enfin voilà, il peut y avoir un petit effet inflationniste de cette épargne Covid sur les prix immobiliers.
Est-ce qu'on met dans le même panier, je poserai aussi la question à Loïc Séné-Girard, les résidences secondaires dont vous parliez et effectivement le logement locatif à courte durée, parce que même la démarche est totalement différente dans les résidences secondaires qui ne sont pas forcément occupées effectivement 100% de l'année, elles ne sont pas forcément louer les résidences qui sont des lieux de résidence, des appartements le plus souvent à location à courte durée, ont parfois été achetés dans le but d'investissement. Donc est-ce qu'on fait vraiment une vraie différence entre ces deux choses-là?
Alors il y a une différence de fait dans la fiscalité, l'approche fiscale qu'on a vis-à-vis de ces biens-là. On peut avoir une approche un peu commune qui est de dire ces logements-là, ils servent pas, dans tous les cas, à loger des gens qui ont besoin de travailler. On parle beaucoup, là, on se focalise sur le littoral, mais c'est le problème des grandes villes. Les grandes villes, depuis très longtemps, n'arrivent plus à accueillir les gens qui y travaillent, ce qui est quand même un problème. À Paris, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, et même dans le centre des grandes villes françaises, on n'arrive plus à accueillir les gens qui y travaillent. Donc, en réalité, le littoral, là, aujourd'hui, découvre, j'allais dire, un peu le problème que subissent les grandes villes dans lesquelles se concentre aussi un certain nombre de résidences secondaires. Donc je pense que dans la réponse politique, il ne faut pas apporter la même réponse aux meublés touristiques et aux résidences secondaires, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout les mêmes publics. Par contre, dans les faits, les conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est des logements qui ne sont pas sur le marché locatif standard.
Et Loïc Chesnais-Girard, j'en venais là parce que, oui, il y a une espèce de résistance qui s'organise, il y a un certain nombre de villes qui ont choisi des méthodes pour augmenter les prix de la taxe foncière ou jouer plutôt sur le logement locatif à courte durée. Donc là aussi, même question en fait. Est-ce qu'on fait vraiment une vraie distinction entre ces deux populations-là d'une certaine façon, ou est-ce que pour vous le problème reste le même qu'on parle du logement à courte durée ou de l'excès de résidence secondaire?
Le vrai problème que nous avons, c'est que nous souhaitons que celles et ceux qui veulent venir vivre en Bretagne et vivre où ils le souhaitent en Bretagne puissent accéder au logement, soit en location, soit en devenant propriétaire. Et nous avons des endroits en Bretagne où il devient impossible de se loger. Et c'est cela qui génère des crispations. Alors après, il y a les deux sujets, meublé touristique et résidence secondaire. Les deux, sur le principe, ne nous posent pas de problème. La Bretagne est accueillante, la Bretagne est ravie d'avoir des touristes, et c'est très bien, ou d'avoir des personnes qui viennent en week-end ou en vacances. Mais c'est comme dans tout, c'est la dose qui fait le poison. Et c'est quand on arrive à un certain degré, un certain niveau, soit de meublé touristique, on a vécu à Saint-Malo des expériences assez fortes prises par la municipalité et le maire Gilles Lurton pour limiter la résidence en meublé, et ou en résidence secondaire, où quand vous dépassez les 30, 40, 50% de résidence secondaire, la vie change, les citoyens n'ont pas la même vie, les commerces ferment, où c'est d'autres commerces qui s'installent, et là on transforme la vie des concitoyens.
Vous avez cité Saint-Malo tout à l'heure, Loïc Chesnais-Girard. C'est vrai que c'est l'une des villes... Alors d'abord, c'est la ville qui a le plus de logements locatifs à courte durée, donc, et qui a pris aussi les mesures les plus strictes. On est à un changement d'usage en activité commerciale, et ça veut dire que chaque personne qui veut changer son appartement en activité commerciale, il doit y avoir un logement par une personne et pas plus. Il y a même un quota de location intramuros et extramuros. C'est quelque chose d'extrêmement ferme. Loïc Chesnais-Girard, est-ce qu'il faut en venir là? Et est-ce que vous dites, vous, président de la région Bretagne, on va appliquer ces restrictions plus, partout, et même à grande échelle? Ou au contraire, est-ce qu'il faut vraiment être visé à chaque fois, visé juste?
Moi, je pense qu'il faut viser juste à chaque fois, et que les maires, les élus locaux ont la capacité d'adapter des politiques à la situation qu'ils vivent. Et on ne vit pas les mêmes problématiques à Saint-Malo, à Ouessant, à Concarneau ou à Carhaix. Et chaque ville a des particularités. Et donc le maire de Saint-Malo, et je le soutiens dans sa démarche, il a défini avec son équipe des règles. À partir du moment où des logements sont mis en meublé touristique de manière permanente, ça s'appelle un local commercial, à partir de là, il y a une déclaration. Et il a considéré qu'effectivement, au-delà d'un certain pourcentage de ce type de logement, on dégrade la vie de la cité. On dégrade la vie de la cité, et donc les habitants à l'année ne vivent plus la même expérience de vie. Et c'est légitime de poser cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, encore une fois, de personnes qui viennent. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas de touristes. On est très fiers d'avoir des touristes en Bretagne, et encore une fois, des gens qui viennent en vacances. C'est très bien, mais il faut gérer les flux, sinon l'expérience de nos habitants n'est plus la même, voire ils ne peuvent pas se loger, ce qui pose un vrai problème, encore une fois, d'équilibre.
Pierre Madec, est-ce que c'est efficace, ces mesures? On a l'impression que beaucoup de villes ont essayé. Les grandes villes d'abord, ça a été d'abord l'appel des plateformes, c'est vraiment venu dans les grandes villes, dans l'Europe entière et dans le monde entier. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de restrictions, il y en a de plus en plus. Là, on le voit dans une ville comme Saint-Malo, il y en a d'autres en Bretagne, mais pas seulement. C'est efficace ou est-ce qu'on s'est contourné désormais parce qu'on ne peut plus voyager différemment?
C'est assez compliqué de tirer un bilan parce qu'on est sur un phénomène qui est quand même assez récent. Ce qui est vrai, c'est que les problématiques qu'on soulève là, en réalité, dans le monde entier, c'est des problématiques qui sont soulevées. On a le cas de Barcelone, il n'y a pas très longtemps.
Barcelone, New York, Paris, grande ville, petite ville.
À Barcelone, ils ont dit très bien les meublés touristiques. Par contre, vous n'avez pas le droit de louer moins de 30 jours d'affilée. Donc, de fait, là, c'est assez... radical comme solution. C'est-à-dire, en gros, on dit, vous avez le droit de louer, mais pas en dessous d'un mois, ce qui, du coup, a normalement, quand on regarde les études, remis un peu des logements sur le marché. Il faut en arriver là, parce qu'au final, c'est un secteur qui est assez peu régulé aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a cette contrainte des 120 jours par an, Mais on voit bien qu'une fois que vous êtes en contact avec un locataire, vous pouvez très bien garder le contact et plus du tout passer par les plateformes et donc continuer à mettre votre logement en location. Et le vrai problème, c'est la temporalité du logement. C'est-à-dire que c'est pas les meublés touristiques en soi qui posent problème, ni les résidences secondaires. Le truc, c'est que à partir du moment où on transforme un logement qui est mis à la location à l'année, normalement, sur le marché, en meublé touristique, ça fait un logement de moins. Mmh. Et même dans un monde où on peut produire rapidement un logement de plus, on voit bien que pour produire un logement, il faut 2, 3, 5 ans. Et donc, ce logement-là est plus disponible tout de suite et on met une éternité à le compenser. Pour revenir juste sur le cas de Saint-Malo, il y a aussi un certain nombre de villes, notamment Paris, qui dit que quand vous avez un meublé touristique, donc il est transformé en local commercial, il faut le compenser.
Ouais, compensation au mètre carré.
Voilà, il faut compenser au mètre carré et donc qu'il n'y ait pas du logement qui disparaisse, du logement pour les Parisiens ou ceux qui aimeraient venir vivre à Paris, on peut imaginer un élargissement de ce type de dispositif.
Un mètre carré loué, un mètre carré habité, pour caricaturer un peu, mais c'est ça que ça veut dire en fait, le logement compensé. Si on loue
habité,
un mètre carré,
en sachant que les meublés touristiques sont habités, mais pas par des gens qui vivent à l'année sur la commune.
Colin est à Nantes. Bonsoir Colin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je vous appelle parce que, justement, j'habite pas très loin des zones concernées. On a une politique globale en France de limitation de l'étalement urbain. Et avec l'augmentation des personnes qui souhaitent des résidences secondaires, plus le fait que ce soit une région relativement attractive qui attire des nouvelles personnes, comment du coup limiter cet étalement urbain ?
Eh bien, c'est une question pour Loïc Séné-Girard, le président de la région Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Colin ?
C'est une vraie question parce que non seulement il faut limiter l'étalement urbain, mais il va falloir arrêter de manger du foncier. La Bretagne, elle consomme énormément de foncier et on doit se limiter comme tout le monde et à un moment donné arriver à ce qu'on appelle le zéro artificialisation net. La loi dit c'est d'ici 20 ans, 25 ans qu'il va falloir y arriver. Donc on a un stock de foncier fini et c'est là où on va se retrouver, comme sur l'île d'Arc, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois que c'est l'île d'Arc qui avait été évoqué, avec l'île-Dieu, c'est la même problématique, c'est-à-dire quelque part dans les îles, ils connaissent déjà cette situation d'un foncier limité. Il faut considérer que nos territoires sont avec du foncier limité parce que par essence, à un moment donné, on pourra pas faire avancer encore la tâche urbaine. Donc il faut reconstruire la ville sur elle-même, donc il faut aller chercher les habitats disponibles. Parce qu'il y a des logements vacants dans nos villes, dans toutes nos villes, il y a du logement vacant et on doit y travailler. Et après, il y a des sujets de complexité et des sujets de prix de sortie. Et puis, les maires ont une arme qui est pas forcément facile à utiliser, mais que on peut mettre en œuvre, c'est la préemption.
Exactement.
Il y a des endroits où on doit préempter, stocker du foncier. Et ça, c'est, encore une fois, l'intérêt général de le faire. La région Bretagne veut aider les maires à le faire, parce que souvent, il y a des problèmes soit de moyens, soit de capacité à porter ce foncier pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, nous avons un établissement public pour porter cela. Mais il se pose aussi la question de porter du foncier pour les générations futures. Ça, ce sont des très beaux sujets sur lesquels il faut travailler.
Séverine Amat est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice des relations médias pour Se Loger et je voulais juste en quelques points que vous nous expliquiez en quoi cette réalité dont on discute là sur France Inter, vous la voyez, vous, dans les gens que vous croisez, dans les annonces que vous avez et les acheteurs qui sont les vôtres. D'abord, est-ce que vous avez vu effectivement un effet qui a pu commencer un peu avant le confinement mais qui s'est accéléré et qui est devenu vraiment exponentiel à ce moment-là ?
Alors nous déjà, on analyse sur Se Loger toutes les annonces en ligne qui sont et qui composent le Grand Ouest, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, le Pays de la Loire, et on constate effectivement une augmentation des prix de plus de 12% par rapport à 2020 et même près de 20% depuis 2019. Voilà, il y a des départements qui portent cette montée en puissance des prix, ils sont 4, comme la Charente-Maritime, la Vendée, le Finistère et la Loire-Atlantique. Ça, c'est ce qu'on constate. Et effectivement, il y a une augmentation des prix avec des villes qui émergent, comme Pessac, où on constate qu'effectivement, en ce qui concerne l'analyse des villes de plus de 50 000 habitants, c'est la ville la plus chère, même devant Bordeaux, puisqu'elle réalise la plus haute augmentation devant Bordeaux. Il y a des villes qui sont plus abordables, c'est le cas de Pau. Et il y a des villes qui connaissent une augmentation la plus forte du prix moyen, comme Quimper. Voilà. On constate aussi, effectivement, que les Franciliens dopent un peu le marché du Grand Ouest.
J'allais vous demander s'il y avait un profil et si c'était vraiment l'affreux parisien, mais vous êtes en train de me dire que oui.
Eh oui, parce qu'en fait, on voit, nous, effectivement, que par rapport aux internautes qui viennent sur Se Loger et qui réalisent des recherches, déjà, on sait qu'un futur acquéreur francilien sur 4 exprime l'intention de changer de région et que, bingo, c'est le Nord-Ouest, en fait, qui se démarque. avec 11% des intentions d'achat, soit une progression de 4 points par rapport aux 12 derniers mois.
C'est intéressant parce que je vous entends parler de Pessac ou de Quimper. J'ai l'impression qu'on peut délimiter la ville télétravail et la ville résidence secondaire près de la mer. Enfin, qu'il peut y avoir une différenciation qui ressemble à ça, Séverine Amat.
Complètement. On ne sait pas exactement, je ne vous l'affirmerai pas, mais c'est ce qu'on peut subodorer, c'est ce qu'on peut prétendre, en fait, effectivement, avec des villes télétravail et des villes vraiment résidence secondaire. Et c'est ce qui fait que Quimper ou Pessac encore émerge. Après, en ce qui concerne les internautes, on sait effectivement où est-ce qu'ils recherchent. On voit effectivement que le Nord-Ouest, c'est ce qui capte l'intention en fait de ces franciliens. On est en demande de départ, d'exode. Et on voit dans le détail effectivement que la Bretagne arrive en seconde position en termes d'intention. Mais il y a aussi le Pays de la Loire en quatrième, l'Occitanie en 5 et la Nouvelle-Aquitaine en 6. Donc on voit que dans ce top 10, en fait, il y a déjà 1, 2, 3, 4 départements qui composent en fait ce Grand Ouest. On voit qu'effectivement, ça capte principalement ces demandes. Après, dans les faits, parce que là, il y a la recherche, donc des gens qui viennent sur le site Se Loger et qui tapent et qui critérisent le bien idéal. Mais après, dans les faits, c'est-à-dire dans le fait de rentrer en contact avec un agent immobilier, on voit effectivement que la Bretagne arrive en tête et non plus en seconde place. Donc dans tous les cas, que ce soit en termes de recherche ou de lien avec un agent immobilier pour rentrer en contact, visiter un bien à l'achat ou à la location, on voit que la Bretagne est en pôle position avec même le Pays de la Loire en seconde place.
J'ai une curiosité, Séverine Amat, je ne sais pas si vous le voyez sur votre site, est-ce que vous voyez si les gens ensuite, ceux qui font vraiment la démarche, se déplacent pour aller voir, pour aller visiter, pour etc. Ou est-ce que ce que vous sentez, ce sont en plus des achats de loin? On fait confiance aux photos, à un chasseur éventuellement, et on ne va même pas sur place. Ça sent ça ou pas du tout chez vous?
Alors, on a fait l'expérience pendant les confinements, notamment le premier qui était le plus restrictif, de ces visites à distance. Et on a eu de bons retours de la part des professionnels de l'immobilier qui ont effectivement prescrit, enfin utilisé ce mode de visite à distance de plus en plus et qui s'est aujourd'hui véritablement désacralisé. Que l'acte d'achat se fait à distance, je ne pense pas.
Dernière chose avant de vous laisser et de vous remercier, Séverine Amat, vous dites effectivement que au moment de l'acte d'achat, c'est la Bretagne qui arrive. J'ai aussi une autre curiosité. Est-ce qu'on achète facilement au prix parce qu'on a en tête, vous parliez des Parisiens et de la grande région Île-de-France, parce qu'on a en tête des prix qui sont des prix parisiens qui n'ont rien à voir avec les prix en Bretagne ou ailleurs. Du coup, on négocie pas parce qu'on pense que c'est pas cher au fond par rapport à un pouvoir d'achat qui est plus élevé.
Certainement. C'est vrai que ça peut biaiser. En fait, on sait par rapport à nos enquêtes d'opinion Se Loger que les porteurs de projets négocieront si le prix leur semble irréaliste. Peut-on parler de prix irréaliste pour des franciliens? J'émets un doute. Voilà. Après, on sait que ce qui fait négocier aussi les acheteurs, c'est l'étiquette. Ça, c'est un autre sujet. Mais ils ont compris aussi qu'acheter un bien qui était énergivore était un levier de négociation certain.
Merci beaucoup, je vous remercie vraiment beaucoup de toutes ces précisions, Séverine Amat. Loïc Séné-Girard, quand j'entends Séverine Amat que vous avez entendu aussi, à la fois vous devriez être fier parce que tout le monde veut aller jusqu'à la Bretagne et on entend bien ce que ça veut dire. Vous avez sûrement vu comme moi qu'il y avait parmi les solutions peut-être un petit peu plus raides, un débat sur le statut de résident breton. Qu'est-ce que vous en dites? Et alors je crois savoir ce que vous en dites, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement d'en arriver là si on n'arrive pas à trouver un rythme de mise en place qui sera un peu moins brutal?
Mais d'abord, le constat, il est là. Ouais. Une partie de nos familles ne peuvent pas se loger. Les enfants qui arrivent à un âge où ils veulent rester en Bretagne ont des problèmes pour se loger eux-mêmes. Et donc, il faut trouver des solutions. Il faut produire des logements qui soient accessibles, avec certainement pour certains des clauses antispéculatives, pour d'autres une capacité à les garder dans le locatif privé ou public durablement pour y vivre. Après, le statut de résident, d'abord, c'est un nom qui est utilisé et qui, à titre personnel, ne me va pas du tout, parce que statut de résident voudrait dire qu'on va faire une différence entre tel et tel type de Français ou tel type d'Européens. Ouais. Et moi, je veux redire que la Bretagne est fière d'accueillir, y compris des Bretons, des Parisiens qui se sentent très vite Bretons, ou des Allemands, ou des Portugais, ou d'autres régions d'Europe qui viennent s'installer chez nous, et c'est très bien. Mais l'enjeu pour nous, c'est de loger celles et ceux qui veulent venir vivre en Bretagne. Et ça reste un sujet sur lequel on doit travailler avec des politiques publiques qui ne se commandent pas comme une pizza sur Uber. C'est des politiques publiques qui se conduisent dans le temps durablement. Donc faire croire qu'avec un statut de résident, on va trouver la solution là, en quelques semaines ou en quelques mois, c'est une fausse bonne idée et on va générer là aussi des déconvenues. Donc le constat est partagé, mais je ne partagent pas le projet de statut de résident.
Il existe, Loïc Chesnais-Girard, ça existe à Rennes notamment, mais pas seulement, ce qu'on appelle les bails solidaires aussi, qui se multiplient aujourd'hui. Est-ce que la solution n'est pas là, par exemple ?
C'est un outil, effectivement, qui existe à Rennes avec un grand succès. Ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire d'un bail durable. On peut même le transmettre à ses enfants, mais on ne peut pas le revendre avec une plus-value importante. Donc on est titré longtemps, durablement, avec les mêmes avantages qu'un propriétaire, sauf la spéculation. Et ces offices fonciers solidaires qui se mettent en place de plus en plus, il y en a un à Rennes, on veut en porter un au niveau de la région Bretagne. On veut en monter un au niveau de la région Bretagne pour aider les collègues des îles. Mmh. Parce que, effectivement, à Belle-Île-en-Mer, à Ouessant ou ailleurs, on a des débats avec des maires qui nous disent on a besoin d'outils supplémentaires. Avec des collègues de communes aussi en bord de mer qui nous disent on est des petite commune, avec moins de moyens qu'une métropole ou une grande agglomération, et si on s'entraide pas, on n'y arrivera pas. Comme sur le sujet de la préemption tout à l'heure. Donc la région va porter un outil à disposition de ces communes, de ces maires, qui encore une fois se battent tous les jours pour inventer des solutions et offrir ce parcours résidentiel qui est encore une fois attendu par nos concitoyens. On n'a pas les mêmes besoins à 20 ans, à 50 ans, à 80 ans. Il faut des solutions différentes.
Anne, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Anne. On vous écoute.
Alors, moi, je voulais. J'avais pas de questions, en fait. Donc, moi,
On m'a raccroché, Anne.
Allô ?
Non, je vous en prie, allez-y.
Donc, j'habite sur une île bretonne. Enfin, j'habite et je travaille sur une île bretonne. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais j'ai un peu le poil qui se hérisse quand j'entends tout ce que, depuis quelques temps, là, sur le sujet. C'est vrai que je me dis, mais votre émission, vous auriez pu la faire il y a 35 ans. Mmh. On aurait eu la sensation qu'on disait exactement la même chose. Donc moi, les questions que je me pose, c'est les élus. Qu'est-ce que depuis 35 ans, les élus ont fait ? Parce que, je veux dire, il y a eu un moment, ils auraient dû quand même faire des acquisitions, s'intéresser au logement des saisonniers. Enfin, bon, je me dis, mais et je dis ça dans ma commune. Hein. Je ne le dis pas vous aujourd'hui, mais je le dis dans ma commune depuis 35 ans. Ensuite, je crois qu'aussi, nous, habitants d'un territoire comme les îles, ben on a aussi une autocritique à se faire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on a fait, qu'est-ce que ben qui a vendu, enfin c'est même si c'est un peu violent ce que je dis, et peut-être que je vais me faire des ennemis, c'est moi, mais je crois qu'on doit aussi balayer devant notre porte. Ensuite, c'est vrai que j'ai pas mal apprécié, parce que j'en discute souvent, le parallèle avec les grandes villes, où effectivement, la difficulté à se loger, elle existe aussi dans des grandes villes comme Paris, et il ne faut pas qu'on croit qu'on est les seuls à vivre ce genre de difficultés, enfin à avoir ce genre de difficultés. Et si je peux me permettre une conclusion,
je n'ai
pas vraiment de question, c'est qu'au centre de tout ça, il n'y a quand même qu'une question d'argent. Mmh. C'est toujours une histoire de fric. Et c'est là peut-être qu'il faut se poser la question, parce que c'est toujours un sujet hyper intéressant. Quand je lisais les 13 propositions là, de l'association qui a fait effectivement l'histoire du droit au logement, dans l'une, c'est faire payer. Mais les gens qui ont les moyens, ils paieront. Ça va pas les empêcher de trouver des solutions pour essayer de venir. Voilà, ils trouveront toujours des solutions. Donc effectivement, il y a plein. C'est un sujet qui est vraiment hyper complexe et qui peut pas se résumer comme ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet moi qui me tient sur lequel effectivement je suis sensible depuis vu mon âge, 35 ans.
On a entendu Anne ce que vous nous disiez. Merci beaucoup pour votre appel, Pierre Madec. Alors Anne a raison.
Anne a raison.
C'est pas un problème qui date d'hier. Disons qu'il y a une facilité. Aujourd'hui, maintenant, avec les plateformes et le reste, qui a permis de démocratiser toutes ces choses-là. Elle a raison sur un autre point. À un moment, les premières locations, ce sont les habitants eux-mêmes des îles et des zones côtières qui ont loué.
Alors, elle a raison sur plein de points. Elle a raison sur le fait de dire qu'on dit souvent les prix immobiliers augmentent. Pour rendre compte, on peut plus se loger. Mais à un moment, des Bretons sur les îles ont vendu à des prix qui étaient élevés et donc sont aussi profité du renchérissement des prix immobiliers. Et c'est vrai dans toute la France. Elle a raison aussi quand elle dit qu'il y a quand même une responsabilité politique à tout ça. C'est-à-dire que peut-être que sur un certain nombre de territoires, premièrement, on n'a pas anticipé. Deuxièmement, on ne s'est pas saisi des dispositifs publics qui peuvent exister. On a parlé du bail réel solidaire. On pourrait très bien imaginer que dans ces territoires-là, les mairies ou les intercommunalités préemptent toutes les transactions immobilières et accusent la hausse de prix et après revendent, par exemple, sous forme de bail réel solidaire ou ce genre de choses. C'est-à-dire protègent le foncier. Ça coûte extrêmement cher. Hein. Mais il faut voir que ce renchérissement des prix immobiliers, il a aussi un intérêt pour les communes et collectivités locales. Ça veut dire plus de rentrées fiscales, les droits de mutation à titre onéreux, tout ça. Donc, un certain nombre de communes se sont aussi satisfaits que les prix immobiliers augmentent sur leur territoire, parce que c'était aussi signe qu'on était sur un territoire attractif. On s'est aussi satisfait sur certains territoires, c'est pas forcément le cas sur le littoral, mais d'une certaine forme de carence en termes de logement accessible. Alors, est-ce que c'est de l'accession sociale à la propriété? Est-ce que c'est du logement social qui sert typiquement à accueillir ces ménages-là, ces ménages qui travaillent, ces saisonniers, ces ménages modestes? Peut-être que, voilà, après, le constat semble aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne chose, partagée par bon nombre de responsables, donc il faut se saisir. Les moyens existent, on en a donné beaucoup, il y en a d'autres. En réalité, le problème... Et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que on a parlé du de choisir un peu qui allait avoir le droit d'habiter ou pas sur le territoire.
Bon, on est un peu à deux doigts de ça, en fait.
Voilà, ça fait un peu peur quand même. Ouais, je partage assez ce qui a été dit par le président de la région Bretagne. Par contre, ce dont on parle pas, c'est de choisir quel type de logement arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un maire, par exemple, ne peut pas choisir le logement qui est vendu. La personne l'achète, elle en fait ce qu'elle veut. Il va y avoir des taxes sur les logements vacants, des résidences secondaires, ce genre de choses. Mais comme ça a été dit, en effet, si vous avez les moyens, vous allez payer les taxes. On pourrait très bien imaginer un système qui dit, quand un logement est vendu, le maire ou l'intercommunalité, en tout cas la collectivité, peut choisir, non pas à qui il va être vendu, mais pourquoi il va être vendu. Est-ce qu'il va être vendu pour faire de la location? Est-ce qu'il va être vendu... Là, on peut dire, non, ça, vous n'allez pas y habiter, vous n'avez pas le droit de le vendre à quelqu'un qui ne va pas y habiter. Et puis, la personne qui achète s'engage sur une durée, j'en sais rien, de 5 ans, 10 ans, à habiter son logement. On pourrait très bien imaginer ce genre de dispositif-là, qui, pour le coup, n'existe pas aujourd'hui. Il faudrait faire une loi, mais c'est possible.
Pour aller dans le sens de notre amie auditrice à l'instant, nous avons cet auditeur sur franceinter.fr qui habite à Morzine, en Haute-Savoie. Ça fait 25 ans que c'est le cas chez nous, dit-il. J'habite près de Genève, côté français, nous dit cet autre internaute. Nous subissons également depuis au moins 30 ans la flambée des prix de l'immobilier conjuguée à la pénurie des logements, etc. Loïc Chesnay-Girard, vous, l'élu, représentant des élus ici au téléphone sonne ce soir, président de la région Bretagne, est-ce que vous diriez que on a tardé, en fait? On y a vu une manne et aujourd'hui on le regrette un peu? Si chacun balaye devant
d'abord,
sa porte.
Les évolutions vont plus vite que notre capacité à nous adapter. Il faut se dire ça aussi. La politique du logement, je le redis, c'est compliqué, c'est long et c'est difficile. Ensuite, le citoyen n'est pas toujours d'accord avec le consommateur, n'est pas toujours d'accord avec l'investisseur, et le citoyen n'est pas toujours d'accord avec l'électeur, d'ailleurs, au passage. Et donc, quand un maire sur une île va préempter, il va préempter au prix, par exemple, et non pas au prix, au prix des domaines, et pas au prix de la transaction. Face à lui, il a des familles, il a des habitants, et c'est pas si simple. Quoi qu'on pense, c'est pas si simple. Quand les citoyens disent il faut pas laisser les prix s'envoler, le jour où c'est eux qui vendent, c'est pas si simple non plus. Donc je le redis, il faut une vision claire de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est de la maîtrise du foncier, c'est indispensable, et une typologie de logement en locatif, comme en accession, qui permettent aux gens de vivre dans nos territoires, y compris sur les îles. Il y a des îles où il n'y a pas assez de logements sociaux. Il y a des îles où, avec un office foncier solidaire, ou avec effectivement de la construction volontariste, avec des clauses qui permettent effectivement d'éviter de se retrouver avec du locatif de vacances ou du locatif rapide, on se retrouve avec des habitants à l'année. Et on crée des politiques comme ça, durables, qui permettent de remettre en place un cercle vertueux, sans exclure ou sans donner, encore une fois, ce sentiment que la Bretagne serait réservée à certains, ce qui serait, à mon sens, inacceptable.
Et très dangereux même. Pierre-Marie est avec nous. Bonsoir Pierre-Marie.
Bonsoir.
Il nous reste 3 minutes, Pierre-Marie. Promettez-moi de faire court. Mais
j'ai
sinon...
eu des consignes.
Ah ben, formidable. Extra, on vous écoute.
De volant. J'ai de la famille à Belle-Île-en-Mer. Une maison voisine a été vendue, plus de 700 000 euros. Les Bélilois, jamais, ne pourront le faire. Acquérir cette... De mon côté, j'ai un appartement, un petit appartement à Saint-Malo. Je pourrais en une semaine gagner plus, je pense, que ce que je gagne en le louant un mois. Et je le loue à l'année, et je le loue à la même personne à l'année. Et mon objectif n'est pas de faire de l'argent, mais de faire en sorte que nous soyons justes. Juste point, rien d'autre.
Et est-ce que vous avez l'impression d'être un ovni dans votre propre ville, Pierre-Marie?
Alors, ovni, j'espère pas. Maintenant, on parle de régulation, on parle de choix politiques. Je pense que la politique commence au pas de sa porte, et c'est ma politique.
Eh ben écoutez, c'est votre politique et merci de nous l'avoir confié. Pierre-Marie, merci beaucoup. Alors évidemment, c'est, j'allais dire, presque idéal, Pierre Madec, d'avoir encore des propriétaires qui laissent des locataires vivre à l'année dans une ville comme celle de Saint-Malo. Mais
en, ça doit être normal.
Ah oui, voilà. En vous écoutant tous le long de cette émission, on se dit que il n'y a que des restrictions en fait qui pourraient avoir un réel effet, parce que des Pierre-Marie, au fond, il n'y en a pas beaucoup.
Ben oui, mais on est une fois de plus dans un système où c'est assez compliqué d'expliquer à un propriétaire « Soyez gentil, mettez votre logement en location toute l'année, mais vous allez perdre de l'argent. » Donc si on ne met pas en place une réglementation, ou alors, on a souvent pris le bâton fiscal. On a souvent dit « On va mettre une taxe sur les logements vacants, une taxe... » On pourrait très bien imaginer
c'est
un système où...
C'est le cas sur le foncier, 60% là.
On pourrait très bien imaginer un système où on augmente la taxe foncière pour tout le monde, et puis on récompense, dans ce cas, ceux qui logent des gens, logent des personnes modestes. Ça revient un petit peu au même au final, mais on est plus dans la carotte que le bâton. Mais de toute façon, il faut réglementer. On est une fois de plus dans des phénomènes qui sont au final assez nouveaux, des dynamiques assez nouvelles. C'est normal qu'on ait du mal à appréhender tout ça. Après, l'avantage, c'est que normalement, ça fait plutôt consensus. On voit bien, avant, on était uniquement sur les grandes villes. Là, on se met à parler des zones attractives du littoral. On a beaucoup parlé des îles. Commence à y avoir un consensus politique pour dire qu'il y a un problème. Souvent, dans ces moments-là, c'est là où on commence à trouver des solutions.
Eh ben, écoutez, souhaitons-le. En tout cas, merci à tous pour vos très nombreux appels. Merci à vous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Portez-vous bien.